Bonjour Lionel Duroy, comment
Bonjour.
allez-vous?
Comment allez-vous? Je vais moyennement bien. Je vais jamais très bien à l'automne et je vais jamais très bien quand je ne suis pas à l'intérieur d'un livre. Et en ce moment, c'est l'automne et je ne suis pas en train d'écrire, mais de parler de mon dernier roman. C'est toujours un peu compliqué pour moi.
Si vous deviez vous définir en trois mots, lesquels choisiriez-vous?
Je suis écrivain. Ça fait trois mots. C'est une réflexion que je me fais depuis très longtemps, en fait, parce qu'elle continue de m'étonner. Je ne sais pas pourquoi je suis très angoissé quand je n'écris plus. Et je me sens terriblement coupable de ne pas être en train d'écrire. Donc la vie pour moi est difficile de ce fait-là. Et en même temps épanouissante, puisque je n'aurais pas découvert l'écriture, je ne sais pas ce que je serais devenu en fait. Donc c'était très important que non seulement que je découvre l'écriture, mais que je parvienne à écrire, ce qui est très difficile. J'ai mis à peu près 10 ans à être satisfait de ce que j'écrivais, de 20 ans à 30 ans, et même peut-être de 20 ans à 35 ans, c'est-à-dire j'écrivais beaucoup. Et je trouvais toujours que ce que j'écrivais ne rendait pas ce que j'avais dans la tête. Comme si, en fait, nous avions, sortant de l'école, et Dieu sait si j'étais mal scolarisé, mais j'ai quand même été un peu scolarisé, comme si nous avions, sortant de l'école, une façon un peu académique et donc fausse de dire les choses. Être écrivain, en fait, à un moment, c'est véritablement trouver sa voie. C'est-à-dire que ce que vous écrivez, la voix que vous émettez, est véritablement en écho avec ce qui vous traverse, c'est-à-dire avec la difficulté de vivre qu'on partage tous. Les gens qui diraient qu'ils n'ont pas de difficulté de vivre m'étonneraient, je ne pense pas que ça existe vraiment. C'est pour ça qu'à la question d'ailleurs, comment allez-vous? C'est toujours faux de répondre je vais bien. En fait, c'est une question très profonde. Comment allez-vous? Ça ouvre toute une conversation sur la saison, sur le moment, sur
Sur votre état d'âme.
mon état d'âme à ce moment-là. Donc, je suis écrivain et quand je dis je suis écrivain, j'ai mis très longtemps avant d'oser le dire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, après avoir publié mes premiers livres, quand on me demandait ce que je faisais, je disais j'écris. Et je me souviens j'avais publié une dizaine de livres déjà, et d'une femme tout de suite agacée en disant, quoi, qu'est-ce que ça veut dire, vous écrivez pour vous comme ça dans votre bureau? Je dis, ben non, j'ai écrit des romans. Oui, mais enfin, vous les publiez pas. Je dis, ben si, j'ai déjà publié 9 ou 10 romans quand même. Ah, pardon. Et tout de suite, voilà, il y a quelque chose, une espèce d'espace qui se crée. Et à partir du chagrin, en fait, qui est mon, je sais pas combienième livre, 12e ou je sais pas combienième, peu importe, j'ai osé dire, je suis écrivain. C'est vrai que je compare beaucoup dans mon esprit l'écriture au violon, à l'apprentissage du violon, parce que j'ai une de mes filles qui est assez bonne violoniste et je l'ai vue travailler. Et pendant des années, en fait, le violon ne dit pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, à son premier concerto dans une église, c'est incroyable, quoi. Vous en avez les larmes aux yeux, tout d'un coup, de l'avoir vu, vous l'entendiez comme ça, inlassablement répéter. Et tout d'un coup, en fait, mais c'était venu toute seule à l'intérieur de son orchestre. Ça y est, elle était capable d'avoir une voix. Et entendre son enfant dans un chœur d'église jouer toute seule du violon, c'est incroyable, quoi. C'est d'une émotion incroyable. Et c'est la même émotion le jour où vous relisez un texte de vous, vous relisez et vous dites, voilà, voilà, ce texte-là dit exactement ce que je voulais dire. C'est le début de l'écriture, c'est-à-dire que vous acceptez cette fois-ci que le livre soit publié. Et ensuite, ça fait quoi? près de 40, plus, ça fait 50 ans que j'écris de toute façon, mais mettons que ça fait une quarantaine d'années que je publie. Au fil des 40 années, je pense que c'est incroyable les progrès qu'on fait. Moi, j'ai jamais relu mes premiers livres. Je ne peux pas dire que j'en ai honte, mais quand je rencontre des gens, si je vous rencontre, je ne vais pas vous dire, lisez mes trois premiers livres. Je n'ai pas très envie, en fait. Je vais vous dire, vous pouvez lire ce que j'écris depuis 10 ans seulement. Voilà. Parce que depuis 10 ans, il me semble que je suis arrivé à une maturité comme ça, donc tard, tard, où j'ai le sentiment que, retournant dans n'importe lequel de mes livres, je n'aurais pas honte de ce que j'ai écrit. Voilà.
Mais quelle différence faites-vous entre l'homme qui écrit et l'homme qui publie?
Elle est énorme, la différence. C'était une de mes grandes angoisses et une grande interrogation, ça. C'est que pendant des années, je n'ai pas su répondre à la question que je me posais à moi-même, pourquoi tu tiens tellement à publier? Puisqu'en fait, au moment de la rupture avec mes frères et sœurs, il y a 30 ans, tout juste 30 ans, à cause d'un livre autobiographique où je racontais notre enfance, la question s'est d'emblée posée, puisque mon frère aîné m'écrivait des lettres d'insultes en me disant, avec le talent que tu as, tu pourrais écrire ce que tu veux. Pourquoi ce texte-là, tu veux le publier, alors que tu pourrais très bien le mettre dans un tiroir et écrire autre chose? Ça me posait une question à laquelle je ne savais pas répondre, en fait. J'étais incapable de dire pourquoi je veux publier autrement qu'en reprenant ces arguments qui étaient très insultants et mesquins, en disant la seule chose qui t'intéresse finalement c'est d'être célèbre et d'être reconnu et de venir fanfaronner sur des plateaux de télévision. C'était sa phrase, fanfaronner sur des plateaux de télévision ou aux radios. Et j'étais complètement pris de court en fait, parce que je sais très bien que je n'écris pas pour fanfaronner devant des radios ou dans la télévision. D'ailleurs, on m'y voit rarement. J'habite sur une montagne très loin des radios et de télévision. Et je n'y vais vraiment que quand mon éditeur me dit, écoute, je te demande d'y aller, quoi, parce que un livre, quand l'auteur n'apparaît pas, c'est compliqué. Donc je savais très bien que ce n'était pas ça la raison. Mais je ne savais absolument pas quoi lui répondre en fait.
Et aujourd'hui, quelle réponse lui donneriez-vous?
Aujourd'hui, je sais. La réponse, en fait, elle est très simple, quoi. J'ai juste envie qu'on m'aime. C'est-à-dire que comme je suis un peu probablement asocial, c'est-à-dire je ne participe à rien, moi. Je ne suis ni sur Facebook, ni sur rien. J'ai très peu d'amis. Les seuls amis que j'ai qui comptent beaucoup, ils tournent autour de mes livres, sont mes éditeurs, les gens, voilà, les gens comme ça. J'ai très peu d'amis, je trouve que l'amitié, et comme le disait Maurice Pialat, est assez décevante parce qu'elle réclame une sorte de lâcheté pour demeurer ami au fil des années avec des gens qui finalement ne vous intéressent plus. Donc j'ai très peu d'amis en fait. Et dans cet enfermement que j'ai avec l'écriture, quand je me suis mis à écrire à 19-20 ans dans une chambre de bonne avec mon frère, quand on est parti de la maison, voilà, lui, là, il sortait faire des photos. Moi, je m'asseyais à ma table et j'écrivais. Et je voyais très bien que c'était ma place dans la vie, pas seulement ma place. C'était beaucoup plus qu'un travail. C'était ma place dans la vie, sauf que j'étais à faune. Ce que j'écrivais, c'était très mauvais. Ça ne disait pas du tout. Ma tristesse, mon incompréhension de ce qui s'était passé dans notre enfance, ça disait pas du tout mon décalage par rapport au reste du monde dans la vie. Je lisais, puis je disais, mais c'est de la merde en fait, ça, voilà. Et il m'a fallu des années. Et je sais très bien, j'ai fini par le comprendre, qu'en fait, je veux être. Quand un livre sort, je regarde discrètement s'il est dans les librairies, s'il est en vitrine, et je me dis, ben voilà, j'ai une place dans le monde, et les gens m'aiment en fait. Ils m'achètent en fait. Parce que comme je suis mes livres du verbe être, comme quand j'écris pas, j'ai l'impression de n'être rien, et d'être dans un grand sentiment de culpabilité parce que je ne travaille plus, Donc finalement, ma seule représentation vivante sur la Terre, c'est d'être écrivain.
Mais est-ce que on peut faire un lien sans faire de la psychologie de bas étage, mais vous étiez un enfant d'une grande fratrie, on sait à travers une famille assez compliquée. Est-ce que dans votre enfance et votre adolescence, vous avez eu le sentiment de ne pas être?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne suis qu'un numéro, moi, je suis le quatrième de 10. Et surtout, je partage avec mes frères et sœurs, surtout les 6 derniers, le sentiment qu'on comptait pas du tout aux yeux de nos parents. On a tous failli mourir. C'est très intéressant, des enfants qui risquent de mourir. J'ai un de mes petits frères qui a 5 ans de moins que moi qui a essayé de se suicider alors qu'il était enfant. J'ai ma petite sœur dont je me suis beaucoup occupé qui a fait une leucémie en entrant dans l'adolescence pour mourir. Hein. Pour vraiment, elle le dit, elle le sait, le médecin le sait, c'est le professeur Bernard qui l'a soignée. Il le disait qu'elle voulait mourir. Moi j'ai fait une maladie du foie à 11 ans, c'est pas normal de faire l'équivalent d'une cirrhose du foie. J'avais jamais bu un dé à coudre d'alcool, quoi. Donc le médecin à Saint-Joseph m'a couché obligatoirement. Pendant un mois, j'avais même plus le droit de sortir pour faire pipi. J'avais plus le droit de bouger parce qu'il pensait que le foie allait faire une hémorragie, ce qui allait me foudroyer immédiatement, quoi. Et surtout le sentiment quand on était malade, et ma petite sœur l'entend, elle entend. Ma mère, tellement contente de raconter à tout le monde que notre petite sœur va mourir. Elle l'entend, parce que je suis au Chili, moi, à ce moment-là. J'ai 24 ans. Et quand j'apprends qu'elle va mourir, je rentre du Chili à toute vitesse. Ça faisait un an que j'étais là-bas. Je rentre du Chili en pensant que je viens pour sa mort, quoi. Et mes frères me racontent l'excitation de notre mère au téléphone, où elle a enfin un drame à raconter autre que ce qu'elle cache, c'est-à-dire qu'il y avait des huissiers à la maison tous les 8 jours pour nous saisir nos meubles et toutes nos affaires, que mon père a failli aller en prison plusieurs fois. Alors ça, évidemment, il fallait jamais le dire. Mais pour une fois, elle avait un drame avouable qui pouvait la faire plaindre. Donc elle appelait toute sa famille à Bordeaux parce que l'un de ses enfants allait mourir. Mais on a toujours eu conscience dans la famille, mais tous, on le dit, tous mes frères et sœurs le disent, que nos parents ont fait 10 enfants sans savoir pourquoi ils faisaient 10 enfants, et qu'en fait, s'ils avaient pu s'en débarrasser, ils auraient été très contents. Et c'est sérieux, je dis pas ça en boutade, je le sais. Et un de mes petits frères est cinéaste, il a fait un film où il a fait parler les 10 personnes, les 10 enfants, en huis clos. Il a monté le film ensuite, c'est extrêmement impressionnant, parce qu'en huis clos, donc en tête à tête, chacun dit la même chose, qui compte pas, qu'il a eu envie de mourir pour en finir, quoi.
Sans pour autant peut-être avoir eu le sentiment de vivre la même histoire.
Ah ben, on n'a pas du tout vécu les mêmes histoires. Moi, je suis donc le quatrième, donc je fais partie du groupe aîné. Je suis le petit des 4 aînés. On était déjà partis. Donc, c'était pas du tout la même histoire. C'était de plus en plus dramatique, en fait, et de plus en plus pitoyable. Mais j'ai pas envie de parler pour mes petits frères et sœurs, mais je sais que c'était vraiment lamentable, quoi. Nous, au moins, nos premières années en Tunisie, puis ensuite à Bordeaux et tout ça, puis ensuite à Paris, au moins quand on n'était que 4 puis 5 enfants, il y avait quelque chose qui tenait encore la route. Puis après, ça part complètement. Ce que je veux dire, je le sens parce que je suis père de 4 enfants, quand pour un enfant, il n'a pas du tout le sentiment de compter, vous vous mettez en danger, en fait, tout le temps. Moi, je me suis mis en danger, c'est incroyable, quoi. Mais j'ai toujours ça, c'est-à-dire je couvre des guerres exprès, en
Mais
pensant que ma vie compte pas. Donc, si je me fais tuer, en fait, je m'en fous. Donc, ça donne ça dit combien on a le sentiment de compter peu, en fait. Parce qu'on compte aux yeux de personne. Vous naissez dans une famille, et donc vos deux seuls interlocuteurs adultes au départ sont vos parents. Si vous ne comptez pas pour eux, je ne sais pas pour qui vous comptez. Et quand vous partez le plus vite possible pour fuir cette famille, Qu'est-ce qu'il y a à reconstruire? Auprès de qui vous comptez? Puisque tout le monde s'en fout. Puisque ma mère me répond quand je lui dis pourquoi tu as fait autant d'enfants, je lui pose la question à 20 ans, elle me dit on n'allait tout de même pas vous mettre à la poubelle. Donc c'est intéressant comme phrase. Mais sur le coup, j'ai même pas réalisé. C'est après, en rentrant dans ma chambre de bonne, j'ai pas arrêté d'y repenser. Et puis j'ai écrit la phrase, on n'allait quand même pas, elle a dit, quand même pas vous mettre à la poubelle. Et je sais qu'elle en a mis à la poubelle, parce que je suis sûr, en dépit de ce qu'elle nous a laissé croire, qu'elle a fait des IVG, des avortements. Et de toute façon, on était 11, il y en a un qui est mort aussi, peu après sa naissance. Donc elle a mis 11 enfants au monde, et je sais qu'elle a fait des IVG. Ça dit le peu d'importance des enfants aux yeux de nos parents. Et ça définit la vie de de tous les 10. Ça la définit. Après, chacun choisit une façon de survivre. Moi, je pense que celle que j'ai choisie, dont j'explique pas forcément bien l'origine, mais j'ai quand même une petite explication, celle d'écrire correspond à ma personnalité. C'est-à-dire, dès qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, moi, je suis très mal, je préfère rentrer à la maison et tout ça, je suis un peu complexé, je me sens pas très bien. Donc, l'écriture, c'est ça, c'est formidable. C'est être seul, personne qui vous dérange. Vous pouvez avoir la gueule que vous avez, peu importe. Et tout d'un coup, vous dites quelque chose de la vie. Vous dites quelque chose au monde. Et vous voyez que ce livre est en librairie. Et que peu à peu, au fil des livres, vous avez en effet des gens qui vous aiment et qui vous lisent. Et qui vous invitent en librairie. Je vais faire une rencontre. Ce soir en librairie, par exemple. Ça, au gré du temps, j'ai pensé ça. J'ai pensé, en fait, je publie à tout prix parce que je veux qu'on m'aime, je veux qu'il y ait des gens qui puissent aimer ce que je dis. Ça va pas plus loin que ça, c'est très
Mais
bébête.
quand je vous écoute, je me pose la question suivante. Est-ce que le fait d'être seul, relativement retiré du monde, écrire et écrire surtout sur et contre vos démons, est-ce que ce n'est pas l'unique façon pour vous, non pas de vivre, mais de survivre? C'est être en permanence reconfronté à vos démons.
Quand mes enfants m'expliquent que j'ai traversé la vie comme un funambule et que j'ai pas vécu, j'entends ce qu'ils disent tout en songeant, mais vivre, c'est difficile pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est vivre si on ne travaille pas sur ce que c'est que vivre, quoi?
Vivre ou survivre?
Moi, il me semble qu'on est tous des survivants, mais je me souviens d'un cours de philosophie, puisque là, je suis vraiment né à la vie en classe de philo, moi, grâce à mon professeur de philo. Parce qu'avant, j'avais eu aucun apport intellectuel vraiment fort, quoi. Et je me souviens d'un cours de philosophie sur la fête. J'étais bon au philo, j'avais la meilleure note, je sais, je travaillais très bien, ça me passionnait. C'est la première fois que j'étais vraiment passionné par ce prof et par tout ce que je pouvais lire grâce à lui. Et quand il parlait de la fête comme un élément philosophique important, quoi, constitutif de la vie, j'en étais plus, j'étais plus avec lui, quoi. J'étais pas avec lui. Pour moi, vivre, c'est très difficile. La fête m'intéresse pas. Moi, ce qu'on peut me faire de pire, moi, c'est un anniversaire surprise. Donc, toutes les femmes que j'ai aimées, qui ont partagé ma vie, savaient ça. Donc, c'était presque une blague, quoi. Elles disaient, ah, c'est bientôt ton anniversaire. Et voilà, je sais très bien que quelqu'un me fait un anniversaire surprise. Je pousse la porte et je repars aussitôt et je reviens plus, quoi. Je vais à l'hôtel, c'est mon endroit préféré, l'hôtel. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Moi, très souvent, quand je vais mal, je vais à l'hôtel.
Pourtant, c'est une façon de vous montrer qu'on vous aime, vous qui êtes tant en quête d'amour.
Oui, mais il faut qu'on me le montre silencieusement. Je n'ai pas du tout envie de.
C'est
Pas, pas.
difficile à
Ah oui,
appréhender,
c'est
être
trop.
aimé.
C'est beaucoup trop violent, une fête comme ça, une fête surprise, avec des gens qui allument la lumière tout à coup et qui vous applaudissent ou qui vous embrassent. Je peux pas, moi. Je peux pas, je suis obligé de me barrer.
Est-ce que ça veut dire que pour vous aimer, il faut d'abord vous apprivoiser?
Ouais, il faut d'abord, je sais pas si apprivoiser le mot, mais en tout cas, les seules conversations aimables que je peux avoir, c'est celles qu'on a en ce moment, c'est-à-dire avec des gens qui ont lu mes livres. Et sur ça, je parle pas, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est pour ça. Quand je dis je suis mes livres du verbe être, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de parler, en fait, avec des gens qui ont rien lu de ce que j'écris. Parce que je ne fais que écrire depuis que je suis. Pour me sauver, je ne fais que écrire. Donc si quelqu'un me dit dans une réception idiote où je me trouverais par le plus grand des hasards et la plus grande erreur possible, quelqu'un commence à parler avec moi, j'ai pas envie de parler en fait. De toute façon, je n'ai pas envie de parler et je parle facilement quand on parle de ça, du travail, de ce que j'écris. Ou alors parler, comme vous, soit passionné par les écrivains en général, soit avec une autre personne qui écrit, où on peut confronter des points de vue. Ou avec des lecteurs. Bon voilà, quand je suis en librairie, je suis très heureux en fait. J'adore que les gens parlent. Un écrivain, c'est aussi un lecteur. Je suis un grand lecteur en fait. Je lis tous les jours et tout le temps. On est quand on parle de livres comme ça, on est à l'intérieur de nos méditations en fait. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, c'est du social. Se mettre en valeur pour la galerie, tout ça, en fait, ça me dégoûte assez profondément. Donc, je n'y arrive pas. Et quand je fais des rencontres en librairie, j'aime bien ça parce que je suis exactement comme si j'étais en train de parler avec mon fils ou une de mes filles. Je m'attache à tout le temps à être absolument juste, ne jamais faire de cinéma et tout ça. Et voilà. Il n'y a que ça qui est intéressant. C'est-à-dire que et les gens, ils entendent ça. Et donc, ça correspond bien, je crois, à la réponse que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, que si je publie à tout craint, au lieu d'empiler mes manuscrits dans un tiroir, c'est bien pour qu'on m'aime. Et j'ai entendu, tout d'un coup, j'en ai eu la confirmation quand j'ai entendu Antonio Lobo-Antunes au micro de Laura Adler sur France Inter. Elle lui pose la question. Alors, moi, j'adore Antonio Lobo-Antunes. Et je pense que c'est avec Joyce Carol Oates, les deux plus grands écrivains vivants aujourd'hui, quoi, qui sont vraiment, je pense, des monuments absolus, quoi. Et quand j'entends Lobo-Antunes avec son accent un peu lourd, que j'adore comme ça, et elle lui explique, elle lui demande, mais pourquoi publiez-vous, monsieur Lobo-Antunes? Et il dit, je crois que les gens qui écrivent et qui donc publient sont des enfants qui n'ont pas été aimés, suffisamment aimés, il ajoute. Et je pense ça, tout d'un coup j'entends ça, je me dis, ben oui, il n'y a pas besoin de chercher une réponse très compliquée. Les enfants très aimés ne vont pas passer 50 ans de leur vie à se tuer au boulot, à publier des livres pour qu'on les aime. C'est épuisant d'écrire, en fait. J'ai
Est-ce que
comme
c'est
livre.
épuisant d'écrire ou épuisant d'être aimé ou de vouloir être aimé?
Ouais, c'est la même chose en fait. Vous avez raison de poser la question. Ce qui est épuisant, c'est de courir après
C'est la quête, c'est pas le
l'amour.
moyen.
Non, c'est une quête. C'est une quête, bien sûr. Et en plus, tellement vaine. Effectivement, vous travaillez 50 ans de votre vie à écrire, ce qui est très difficile. Ça demande une espèce d'acharnement intellectuel pour comprendre. Chacun a son œuvre, la mienne est assez autobiographique, mais je cherche quelque chose. C'est épuisant. Alors, c'est une quête vaine parce que bon, je vais mourir et puis voilà, peu importe, mais ça on le sait. Mais je retourne la question à mon endroit en me disant, oui, mais c'est quand même une magnifique façon d'avoir brûlé la vie, d'avoir passé son temps à écrire. C'est quand même. C'est très satisfaisant, quoi. Je regarde la vie de quelqu'un comme Thomas Bernard qui aura fait ça. Je parle de Thomas Bernard parce que Thomas Bernard est quand même celui dont je me sens le plus proche, parce qu'au fond, toute son œuvre est terriblement autobiographique. Il a trouvé sa musique, qui est vraiment la musique unique au monde de Thomas Bernhard. Et il publie son dernier livre, le bien nommé Extinction, et il meurt quelques mois après la publication du livre. Et les phrases d'Extinction sont magnifiques, quoi, quand il explique j'écris pour vous éteindre, en parlant de sa famille, de l'Autriche, j'écris pour vous éteindre complètement, que vous n'existiez plus jamais, quoi. Donc il dit son dernier livre, là, 800 pages, Extinction, qui est un monument, et il meurt. Je crois qu'Extinction sort en 89, et Thomas Bernhard meurt avant 90, je crois. Voilà, donc il aura passé sa vie, en fait, à travailler pour être au clair avec son très profond dégoût des siens et de l'Autriche.
Et ce qui est peut-être rassurant pour vous aussi, dans le fait d'être publié et d'écrire, c'est que pour ne pas avoir été aimé, pour avoir toute sa vie tenté d'être aimé, vous êtes certain que dorénavant vous laisserez une trace.
Oui,
Ça vous rassure?
pardon,
Ça vous rassure?
ça me touche de savoir que des gens ont dans leur bibliothèque le chagrin échappé. Nous étions nés pour être heureux, des livres importants comme ça, ou L'absente. Je me dis que je suis comme un jardinier, quoi. J'ai bien planté des arbres, j'ai bien labouré, et les arbres, ils restent quand même. Ils nous survivent un certain temps. Et puis j'ai participé aussi au concert des gens qui travaillent sur la question de qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce qu'on en fait d'avoir été mis sur Terre. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? On peut décider effectivement de rien en faire du tout, de faire la fête, de gagner le plus d'argent possible. Je ne sais pas trop pourquoi faire, pour acheter des voitures ou des avions, mais. Et puis on peut aussi décider que vivre, c'est associé à travailler, quoi. C'est-à-dire, travailler, c'est réfléchir. Je pense à Jean-Paul Sartre quand je pense à ça. Très tôt, en fait, il creuse le sillon, quoi. Et jusqu'à la fin, il creuse. Il peut se tromper, on s'en fout. Aussi bien à travers son théâtre qu'à travers ses romans, il creuse. Qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Voilà. Et ce sont des belles vies, la vie des ouvriers comme ça, des ouvriers écrivains. Nous sommes des ouvriers, nous sommes tous les jours au travail, quoi. Nous, on n'a pas de grève pour les questions de retraite ou tout ça. Moi, il n'y a pas de dimanche où je n'écris pas. Je me détesterais de m'arrêter d'écrire 2 jours. Je ne supporte pas ça, quoi. J'écris même le jour de Noël. Je ne veux pas qu'on m'emmerde. Je le paye très cher, hein. Toutes mes femmes m'ont quitté à cause de ça, je pense. Parce qu'assez vite, il apparaît que l'écriture est en fait beaucoup plus importante que la vie amoureuse ou conjugale, que l'autre, en l'occurrence la femme qui partage ma vie durant quelques années, voit très bien que je peux survivre sans elle, mais que je ne peux pas survivre sans écrire, quoi. Et que donc, ma maîtresse préférée, c'est quand même l'écriture. C'est assez patent tout de suite.
Mais vous êtes souvent défini comme un homme en guerre ou un écrivain en guerre. Avec la parution maintenant de Nous étions nés pour être heureux, qui est le livre de la réconciliation, semble-t-il, est-ce que vous êtes en paix?
Mais non, ça change rien. Je suis réconcilié avec mes frères et sœurs, mais ils le savent parce que je l'ai écrit dans tous les livres pendant les 30 ans où je ne les ai pas vus, où je pensais jamais les revoir avant de mourir. J'ai toujours écrit que je les aimais. On a grandi ensemble. Comment vous voulez ne pas aimer les gens qui ont grandi avec vous dans un tel chaos et avec une telle solidarité? On était solidaires, mes frères et sœurs. Les aînés étaient très solidaires entre aînés pour protéger mon père de tous les emmerdes. Les petits, c'est différent. On a essayé d'aider les petits, voilà. Et puis on a été maladroit, probablement méchant comme tous les aînés, qui envoient les petits leur faire les courses à leur place parce qu'ils en ont marre et tout ça. Mais peu importe. Mais ça crée des liens. C'est comme les gens qui ont fait la guerre ensemble. Ça crée des liens très forts. Donc mes frères et sœurs, je me suis coupé d'eux, déchiré d'eux pour pouvoir écrire, parce qu'ils voulaient m'interdire d'écrire. Et quand ils reviennent 30 ans après, en s'excusant, en me demandant pardon, évidemment que je suis content. Donc voilà, j'ai retrouvé mes frères et sœurs. En quoi retrouver mes frères et sœurs me mettrait en paix? Ça me fait juste plaisir. Je suis content, je peux les appeler librement comme ça. Bientôt, je déjeune avec quatre de mes frères, etc. Voilà, on est comme ça. Donc, je suis extrêmement content de les avoir retrouvés. J'ai cédé sur rien, donc j'ai payé le prix, je ne les ai pas vus pendant 30 ans. Je continue à écrire. Mais le prochain livre que je vais écrire est de la même essence que les précédents. C'est-à-dire que je suis toujours dans une espèce de colère ou de désespoir ou d'incompréhension de tout ce qu'on traverse. Je sais que je vais écrire, je le pense, je ne sais jamais trop comment tourne le livre quand je le commence, mais je veux écrire sur le rapport des femmes avec moi. J'allais dire sur mon rapport avec les femmes, et puis tout en réfléchissant, je viens d'inverser à toute vitesse le rapport des femmes avec moi. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de femmes tout au long de ma vie, et ça n'a jamais été simple en fait. Donc évidemment qu'aujourd'hui, je suis face à une espèce de question presque insoluble, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes? La première femme de ma vie étant ma mère qui me terrorisait, qui nous terrorisait, tous les 10. Ça m'intéresse, comme je revois mes frères et sœurs, ça m'intéresse de les entendre parler de ça et de les entendre dire à quel point ils ont détesté notre mère et à quel point elle nous a fait peur et à quel point ça a bousillé leur vie. Tous, aussi bien les filles que les garçons. Donc, évidemment que la question. De la première femme de ma vie, donc ma mère, a rejailli sur toutes mes relations avec les autres femmes. Voilà, une femme qui commence à dire un mot plus haut que l'autre, je m'en vais, moi.
Mais est-ce que dans votre rapport aux femmes, est-ce que la difficulté c'est de les recevoir ou de vous y abandonner?
Je ne peux m'abandonner. Qu'avec une femme dont je sens un amour abyssal. Je peux m'abandonner dans les bras d'une femme qu'à condition d'entendre qu'il n'y a que moi pour elle dans sa vie, quoi. Et je suis en vieillissant de plus en plus sur le recul par rapport à ça. Parce que je sais que ça commence comme ça et que ça se termine par une rupture. Où la femme que je me suis mis à aimer tant s'en va et donc me laisse complètement blessé et pour très longtemps blessé chaque fois. Je mets des années à m'en remettre en fait. Donc c'est très compliqué, c'est-à-dire que je veux travailler là-dessus parce que toutes mes relations avec les femmes ont toujours commencé comme ça, dans un abandon complet, parce que la femme qui me rencontre ou que je rencontre me veut, voilà. Donc il y a ce truc incroyable à 17-18 ans, la façon dont on fait l'amour à 17-18 ans est magnifique, c'est-à-dire il y a un abandon total et même une incompréhension de l'acte. C'est intéressant, on réfléchit même pas à l'acte, on est comme des petits animaux, certes cérébrés et très sensibles, hypersensibles. Mais ça va de soi. Et j'ai trouvé qu'au fil des décennies, faire l'amour, c'est-à-dire un homme pénétrant une femme, ça allait de moins en moins de soi. c'était très violent cet acte. Et que donc ça méritait bien autre chose que ce qu'on ressent à 20 ans quand on fait l'amour. Voilà, et au fond, quand on réfléchit à la violence de l'acte amoureux, moi ça m'impressionne en fait. Donc je dis ça parce que au fil des années, peu de femmes m'ont inspiré suffisamment confiance pour que je fasse l'amour avec elles en fait. Et ensuite, de toute façon, la nature humaine fait que les rapports s'établissant, on commence vraiment à créer une relation et tout ça. Malheureusement, je trouve que la plupart des relations sont périssables, donc ça m'inquiète énormément. Ça m'inquiète en fait dans la vie de perdre aussi bien une amante qu'un ami. Donc j'ai très peu d'amis. Mon éditeur en fait partie, Bernard Barrault, et nous sommes mutuellement d'une loyauté absolue l'un avec l'autre, si vous voulez, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose de très important pour moi dans cette amitié. J'ai très peu d'amis comme ça. Et la relation amoureuse avec les femmes, qui n'est plus donc une relation d'amitié, a cette particularité de se retourner. Contrairement à des amitiés comme ça entre hommes, il n'y a aucune raison que mon éditeur ne soit plus mon ami. En revanche, il y a pas mal de raisons qu'une femme que j'aime infiniment, à un moment, se détourne de moi.
Mais vous soulignez une amitié entre hommes, l'amitié avec une femme n'est-elle pas possible?
Non, je ne pense pas en fait. Mais je ne pense pas pour un homme comme moi, je le pense sans doute pour d'autres hommes. Moi, je n'ai jamais pu être l'ami d'une femme. J'ai toujours été l'amant de la femme. Toujours. Je dis toujours, non. Je me trompe quand même. Il doit y avoir quelques exceptions. Mais qui ont été quand même. Disons qu'on aurait pu devenir amant, mais on n'est pas devenu amant. Parce que c'est une femme qui est mariée avec un homme que je connais, parce qu'on ne fait pas des choses comme ça. Mais toujours ce qui est attirant, j'adore ça. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'éclair entre un homme et une femme, c'est une relation amoureuse en fait. J'ai pas d'amitié comme ça, moi, avec une femme, comme j'ai avec un homme qui est fondé sur des lectures communes, un regard commun sur la vie, une volonté d'entreprendre ensemble quelque chose, comme les livres. Je ne crois pas à l'amitié qui n'entreprend rien. Donc je pense que l'amitié, elle se crée. On fait un film ensemble, voilà, c'est ça l'amitié. Et ça va crever si on ne fait pas un second film. Ça va s'épuiser. Et dans le. Ce qui m'impressionne, en fait, dans la relation amoureuse, c'est soudain la fin du désir. Une relation d'amitié du même sexe, on fait des livres ensemble, on fait des films ensemble, on fait des voyages ensemble, on travaille ensemble. C'est vrai que si on arrête de travailler, je pense que ça dépérit assez vite. Mais ce qui m'a toujours surpris dans les relations avec les femmes, c'est un moment la fin du désir, voilà. Et ça me glace, en fait, d'entendre soudain une femme me dire.
Mais est-ce que vous basez alors votre relation avec les femmes quelque part sur la sexualité?
Oui, bien sûr, ouais.
Et la crainte que le désir s'en aille, est-ce que c'est pas tout simplement la peur de la sexualité au départ déjà de la relation? Vous n'y intégrez pas une forme de crainte déjà dès le
Si,
départ?
bien sûr que si, oui. Bien sûr que si, venant de la famille dont je sors, avec une mère qui m'a vraiment terrorisé, mais au-delà, quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment un cauchemar, quoi. La sexualité, pour moi, m'effraie beaucoup, en fait. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux avoir une sexualité paisible qu'avec une femme qui est totalement dans l'abandon pour moi, quoi. Totalement dévouée à moi, j'allais dire. Et il y a forcément un moment où ça va s'arrêter, forcément. Et là, la souffrance est extrême, et je pense que je revis la souffrance monumentale que j'ai vécue à 10 ans quand j'ai vu ma mère devenir folle, quoi. Je ne l'ai jamais aimée beaucoup, ma mère, je pense. Elle m'a toujours fait peur, parce que je me souviens, à Neuilly, avant que tout s'effondre, quand j'ai 6 ans, 7 ans, ma mère est quelqu'un qui me fait peur, parce elle fait beaucoup de bruit en marchant, elle ouvre les portes, elle claque les fenêtres, elle est associée à des courants d'air, à des trucs très désagréables, où vous vous sentez plus protégé, où les fenêtres sont ouvertes, où les portes claquent et tout ça. Elle est comme ça, de toute façon. Mais malgré tout, c'est ma mère, quoi. Elle s'occupe de me brosser les dents, de me laver les cheveux, elle est là. Et puis à 10 ans, la même femme devient effrayante, quoi. Vraiment effrayante. Personne ne peut supporter ça, je pense. Et là, la première fois que je la vois vraiment folle et se rouler par terre, c'est dur, hein, de voir votre mère par terre, les quatre pattes en l'air, hein. C'est dur parce que c'est très animal. C'est comme une araignée, quoi. Et en train de hurler, à ce moment-là, c'est fini. Je me souviens, je pleure pendant 3 heures. Et je me souviens très bien de ce que je répète en boucle. J'ai 10 ans, hein. Je répète en boucle, ma pauvre maman, elle est devenue folle. Et en fait, je sanglote et je pleure. On nous avait relogé dans deux HLM sur le même palier. Je vais m'enfermer dans celui où on est les quatre aînés, les quatre grands, comme ça. Et je pleure toute l'après-midi et je me souviens que mes deux frères plus grands que moi, de 2 ans et 4 ans, essaient de me consoler mais n'y arrivent pas en fait. Parce que je pense qu'elle ne va jamais revenir à la raison. Donc je sais que ce jour-là, qui est un jour capital dans ma vie, je l'ai pleuré pour la dernière fois parce que je pensais qu'elle était morte. Je la reverrai jamais. Donc et quand elle est vraiment morte, j'ai absolument pas pleuré. Hein.
Est-ce que c'est cette scène, ces cris, cette peur que vous retrouvez incessamment lorsque vous écoutez Maria Callas dans l'aria de l'acte 3 de la Traviata?
Oui, bien sûr, oui. Mais je l'ai compris très tard. Parce que comme il n'y avait ni livre ni musique à la maison, je ne savais pas ce que c'était l'opéra. J'ai découvert l'opéra tout seul, moi, en fait. Tout à fait par hasard, parce que c'était l'anniversaire de ma première femme. Et il y a quelqu'un, on ne sait pas qui d'ailleurs. J'ai souvent demandé à Caroline, qui est ma première femme, que j'adorais. Elle était petite, on était jeunes là. J'ai dit, mais c'est qui t'a offert la Traviata? C'était pas Maria Callas qui chantait d'ailleurs dans cette Traviata-là. Et moi, un jour, elle ne l'ouvre pas, Caroline, le disque. Il était sous cellophane. Et un jour, je suis en train d'écrire et j'ouvre, je déchire le cellophane. J'étais fatigué, il devait être 14 h ou 15 h, j'arrêtais d'écrire. Et j'ai eu envie d'écouter. Et ça a été un truc incroyable, quoi. D'une force. C'était les cris de ma mère, mais avec la beauté, quoi. C'était la même chose, c'est-à-dire la même dramaturgie. Et chaque fois que je réécoute Callas, j'entends ma mère crier de chagrin, en fait, de douleur. Et ça me fait un effet incroyable. Et c'est pour ça que j'ai pensé, je l'écris dans un de mes livres. J'aurais vraiment voulu connaître Maria Callas et j'aurais sonné à sa porte et je lui aurais dit que je l'aimais. Et je lui aurais demandé la permission de la prendre dans mes bras, en fait. Parce que je retrouve évidemment chez Callas l'expression de la folie de ma mère ou du chagrin de ma mère. Donc évidemment que j'ai envie d'embrasser Callas. Je pense que si on n'avait pas eu tant de décalage, c'est-à-dire qu'elle est morte, je devais être enfant, je ne sais plus. Je serais tombé amoureux de Callas, oui, pour rattraper quelque chose. Oui, bien sûr, ouais.
Mais vous qui avez tant travaillé sur vous-même, qui avez tant exploré les arcanes de l'existence et de votre existence, est-ce qu'il y a encore des choses qui restent secrètes en vous et que vous n'avez pas découvertes?
À plein. D'abord, je découvre en vivant, donc j'écris au fur et à mesure de mes découvertes. Et donc quand j'ai fait cette si étrange dépression quand j'écrivais Le Chagrin, je me suis vu fuyant la maison en courant à 2 h ou 3 h du matin, hein. pour aller me réfugier à l'hôtel parce que je pensais que j'allais faire un infarctus tellement mon cœur battait vite, quoi. J'étais tellement angoissé, je ne pouvais plus du tout dormir avec ma femme. Donc, je m'enfuyais vraiment. Ça m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Hein. Et je m'enfuyais. À 2 h du matin, je disais, je ne peux plus, je ne peux plus. Je prenais les clés, je me barrais. Et je courais, je me souviens, je courais loin, jusqu'à Nation, jusqu'à la place de la Nation. Et on habitait loin. Je connais des hôtels là. Et j'allais à l'hôtel s'il ne vous reste pas une chambre. Et je me souviens, on me donne une clé, je monte dans la chambre, je ferme la clé et je tombe sur le lit. Et je me réveille le lendemain, je suis encore en chaussures et tout ça, en manteau, et je suis tombé sur le lit et je dors en fait. C'est-à-dire que, bien sûr que je suis surpris. C'est ça qui est incroyable, je trouve, dans la vie. C'est de s'étonner soi-même par la façon dont on réagit. En fait, vous courez après vous-même. Vous ne savez pas ce qui vous arrive là. Je me suis dit, ah, je suis peut-être en train de devenir fou comme ma mère. Je revois la tête de mon éditeur parce que on dîne assez souvent ensemble, donc on se retrouve au restaurant. Et je dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, tu sais, j'ai l'impression que j'ai une araignée noire qui m'en serre le cœur. Je pense que je vais bientôt mourir. Et en fait, il ne peut pas comprendre là. Vous êtes enfermé dans une angoisse qui est indicible. J'en parle aujourd'hui, mais c'est vieux, ça a plus de 10 ans maintenant. Au moment où je la vis, je cours après la personne que je suis. Je ne sais pas qui je suis à ce moment-là. Et bien sûr, et tout le temps, je vais être surpris. Le jour où on va m'annoncer que j'ai une maladie et que je vais mourir et qu'on me donne, mettons, 6 mois, je vais être surpris par ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais me mettre à trembler? Est-ce que je vais penser, bon, bah, 6 mois, c'est un soulagement? Parce que quelquefois, je pense avec soulagement, que ça doit être agréable de savoir que ça va s'arrêter. Je l'ai pensé souvent.
Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est déjà le regard de l'écrivain qui s'exprime, comme si vous étiez presque surpris ou heureux qu'il vous arrive quelque chose pour pouvoir le décortiquer dans l'écriture.
Oui, je suis heureux de ça, oui. Le seul homme qui l'a si bien expliqué, c'est Antonio Lobontunès dans le livre d'entretien qu'il a donné, où j'ai retrouvé des phrases similaires à celles que j'écris pour moi, en disant, j'en suis venu à... Il faudrait que je retrouve la phrase exacte, elle est très belle, la phrase de Lobontunès. Même les chagrins les plus douloureux, j'en suis venu à bien les accueillir parce que je sais que je vais les écrire. C'est de la vie, et tout est de la vie. C'est pour ça que je trouve ça toujours assez bête quand on me dit c'est tellement dommage de ne pas avoir vu vos frères et sœurs pendant 30 ans, vous regrettez pas. C'est complètement idiot de dire ça. Ces 30 années où je ne les ai pas vus, c'est ma vie, c'est mon identité. C'est comme si on me disait c'est tellement dommage que tu sois blanc, si tu étais noir, ce serait mieux. Non, j'ai une gueule de blanc, c'est mon identité. Donc, tout est bien dans la vie, y compris cette rupture de 30 ans, qui est évidemment intéressante, qui est plus intéressante que de se voir le dimanche pour bouffer du poulet avec un verre de rouge et rien ne se dire. Voilà, là, pendant 30 ans, on ne s'est pas vu. Voilà, tout ce qui survient, c'est intéressant. Donc, évidemment, que le jour où on va me dire, il vous reste 6 mois à vivre, ça peut arriver, c'est commun. Il y a beaucoup de gens qui quittent la vie par la maladie. Donc, ils apprennent donc combien de temps il leur reste à peu près. Ben, évidemment que ce jour-là, je voudrais savoir comment je vais me comporter, oui.
Tout ce qui survient est intéressant. C'est une magnifique phrase de conclusion, Lionel Duroy. Merci pour ce magnifique entretien et
Merci.
surtout, soyez heureux.
Merci.